Sécurité Santé, Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons des pathologies des toilettes avec le professeur Gérard Amarinco, qui est chef du service de neuro-urologie à l'hôpital Tenon à Paris. Il vient de publier avec le docteur Agnès Sénéjou, Pathologie des toilettes aux éditions Springer. Et vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, continuer à nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Je répète, 33 1 84 22 75 75. Et juste avant les informations, on a entendu le témoignage d'Emma qui a des problèmes anorectaux depuis 2 ans. Elle est atteinte de sclérose en plaques. Et professeur Amarinco, on était en train de parler justement de l'impact des atteintes neurologiques sur les troubles urinaires et fécaux. Et vous étiez en train de nous dire que justement c'est important de consulter quand on a ces troubles-là parce que ça peut être révélateur d'une maladie neurologique.
Oui, les troubles urinaires peuvent révéler des pathologies neurologiques, qu'elles soient centrales au niveau du cerveau de la moelle ou qu'elles soient périphériques au niveau des nerfs. Beaucoup moins souvent quand même les troubles anorectaux qui sont quand même très largement présents dans la population générale sans qu'il y ait pour autant derrière une pathologie. Il ne reste pas moins vrai que ces symptômes sexuels, ces symptômes urinaires ou anorectaux peuvent accompagner grand nombre des pathologies neurologiques et nécessitent une prise en charge spécifique, à la fois en termes de confort, de gêne quotidienne, mais aussi en termes d'éventuels retentissements. On en a parlé rapidement tout à l'heure, puisque, et notamment les troubles vésico-sphinctériens, les troubles urinaires, peuvent donner des dégradations des reins, donner des insuffisances rénales si on les prend en charge, notamment dans ces vessies qui se contractent trop vite et trop fort. Donc oui, la recommandation, c'est qu'il faut consulter. Outre pour être aidé en termes de confort, il faut consulter son médecin, d'abord son médecin généraliste, pour bien vérifier que la banale constipation, surtout si elle s'associe à d'autres symptômes comme des petites hémorragies, comme une alternance de diarrhée et de constipation, ne peut pas être révélateur d'une pathologie organique au niveau du côlon ou du rectum, et devant un trouble urinaire, s'il n'y a pas une pathologie urologique ou s'il n'y a pas une pathologie neurologique.
Alors on a justement Boubacar qui nous appelle de Freetown en Sierra Leone. Boubacar, bonjour. Boubacar, est-ce que vous êtes en ligne avec nous? Boubacar. Alors, on a un petit problème de ligne téléphonique, on va essayer de rejoindre Boubacar. Professeur Amarinco, quels sont les moyens que vous avez d'abord pour porter un diagnostic quand il y a une plainte justement de constipation, si on reprend le cas d'Emma, et puis quels sont les traitements que vous avez derrière? Elle nous a expliqué un système qui ressemble un peu à quelque chose comme un lavement, mais je ne sais pas très bien ce que c'est. Voilà, comment vous traitez ces problèmes?
Alors, on parle de la constipation, on ne parle pas des troubles urinaires. Pour la constipation, en réalité, il y a deux types de constipation, il faut en connaître le mécanisme avant de proposer un traitement. Il y a la constipation dite de progression, c'est-à-dire qu'il y a un ralentissement du transit depuis ce qu'on appelle le côlon jusqu'à l'ampoule rectale et à l'anus. Donc ça, c'est un premier type de constipation. Et puis un deuxième type de constipation, qu'on appelle plutôt la dyschésie, c'est une difficulté d'exonération. Cette difficulté d'exonération peut être en rapport avec une paralysie du rectum, mais surtout un spasme de l'anus qui constitue un obstacle. Et suivant le type de constipation, on a des traitements spécifiques de l'une ou de l'autre. Alors, on propose en général ce qu'on appelle des mesures hygiéno-diététiques, mais ça, c'est pas spécifique aux pathologies neurologiques, l'activité physique, la bonne hydratation, le traitement associé des troubles urinaires,
manger suffisamment de fruits et légumes,
manger des fibres, bien évidemment, prendre du son d'avoine, déclencher le réflexe d'exonération dans des toilettes adaptées et dans des postures adaptées. Tout ça, ce sont des petits moyens qui sont souvent d'ailleurs efficaces pour améliorer la situation.
Mais quand ça marche pas?
Quand ça marche pas, on peut avoir recours à des médicaments de première ligne, hein, des médicaments qui sont des médicaments de lest pour favoriser le transit, des mucilages qui permettent d'améliorer encore une fois ce transit. Récemment, mis sur le marché depuis le début de l'année, on a des nouvelles molécules qu'on appelle des entérokinétiques qui permettent de favoriser la contraction du côlon. Donc tout ça, ce sont des mesures médicales qui sont le plus souvent efficaces. Et puis malheureusement, parfois les constipations sont tellement importantes gênante, et tellement gênante, parce qu'il ne faut jamais oublier que la constipation ou la dyschésie peut impacter les troubles urinaires. Il suffit parfois de traiter les troubles anorectaux pour que les troubles urinaires, qui peuvent être très délétères, pour encore une fois, pour le rein, puissent être largement améliorés. Donc, quand on n'arrive pas à traiter ces patients par des mesures standards d'hygiène et de diététique, quand on n'arrive pas à les améliorer par les médicaments usuels, on peut avoir effectivement l'utilisation des lavements. Alors, c'est pas des lavements comme on faisait auparavant avec des lavements de l'ampoule rectale, parce que sinon, ça n'évacuerait que les sels qui sont séquestrés dans la partie toute basse du tube digestif. L'idée, c'est de pouvoir vidanger, en quelque sorte, tout l'ensemble de ce tube digestif, de tout ce côlon. Il y a quelques années, on était obligé de faire des interventions chirurgicales. On faisait un petit trou à côté du nombril. Les patients étaient obligés de se sonder à travers l'abdomen et d'irriguer tout le côlon pour vider le côlon. Désormais, grâce à un procédé qui vient d'Europe du Nord, on a une sonde qui va monter dans la partie proximale du côlon et qui va permettre, grâce à une pompe, de vidanger totalement ce côlon. Et donc, les patients vont trouver un grand confort.
C'est ce que nous a raconté Emma tout à l'heure.
C'est raconté cette patiente.
Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez des lavements? Parce que je dirais que c'est effectivement un peu passé de mode, mais à la fois ça revient un peu, on entend ça dans certaines médecines, comme la médecine ayurvédique en Inde, mais aussi dans certains courants de médecine alternative en France. Vous en pensez quoi ?
Bah, j'en pense rien. Le lavement peut avoir une utilité en cas de constipation avec une mauvaise vidange de l'ampoule rectale, mais en règle générale, ça ne suffit pas. C'est un pis-aller, ça va ne vider que la partie toute terminale du tube digestif, et souvent la problématique est tout autre, et il faut vidanger tout le côlon.
En clair, donc, ça n'a pas grand intérêt.
Ça n'a pas l'intérêt qu'on a pu lui accorder.
D'accord. On a retrouvé Boubacar, qui nous appelle de Freetown, en Sierra Leone. Boubacar, bonjour.
Oui, bonjour, docteur.
Nous vous écoutons. Boubacar, la ligne n'est pas très bonne, donc il faut que vous parliez bien près du téléphone.
Oui, alors, j'ai une constipation très forte qui m'entraîne des terribles maux de tête. Alors, je demande au docteur des conseils pour se débarrasser de ce problème.
Alors, je vais me permettre de répéter votre question, parce que pareil, la ligne téléphonique n'est pas très très bonne. Aujourd'hui, on a des petits soucis avec les lignes téléphoniques. Vous dites que vous avez une constipation chronique, et ça vous entraîne surtout des maux de tête. Alors, professeur Marinko, vous n'allez pas faire une consultation par téléphone, mais peut-être quelques conseils à donner.
Oui, alors c'est toujours bien évidemment bien difficile, puisqu'il faut un interrogatoire complet et un examen physique complet avant d'imaginer une stratégie évaluative des examens complémentaires et a fortiori des thérapeutiques, et dont le premier conseil, c'est de se rapprocher de son médecin traitant, de faire une véritable expertise de cette situation. Cela dit, d'avoir ce qu'on appelle des céphalées, des maux de tête au cours d'une constipation, c'est quand même pas tout à fait banal. On peut avoir des équivalents de migraines au cours des efforts de constipation, mais il faut savoir aussi qu'un certain nombre de pathologies intracérébrales peuvent se révéler au cours de constipation. L'effort de poussée abdominale qui est nécessité pour faciliter l'exonération peut entraîner une surpression au niveau des vaisseaux cérébraux et peut être, de temps en temps, c'est assez exceptionnel, mais il faut toujours l'avoir à l'idée, être symptomatique, être le témoin de petites anomalies vasculaires cérébrales, des malformations, voire d'autres pathologies de la régulation de la dynamique du liquide céphalo-rachidien au niveau du cerveau.
Donc, en fait, le conseil, c'est d'aller consulter.
Il faut toujours consulter lorsqu'il y a des symptômes associés à la constipation. Quand la constipation est isolée et banale, mon Dieu, ça peut faire partie d'une manière d'être ou une manière de vivre des gens. Quand la constipation s'associe à d'autres symptômes, comme une diarrhée, comme des rectorragites, comme des saignements, et a fortiori comme des symptômes, comme des maux de tête, il faut absolument consulter, parce qu'encore une fois, ça peut être symptomatique d'autres choses.
Merci beaucoup, Boubacar, de nous avoir appelé de Sierra Leone. Et on a au téléphone Bardia Tiambiano, qui est ingénieur urbaniste, coordinateur des eaux usées de la ville de Port-Gentil au Gabon. Il fait partie de l'association Les Toilettes du Monde. Bardia Tiambiano, bonjour.
Bonjour Madame Ledon,
merci.
Bonjour à tous les éditeurs.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. Quel est le pourcentage de la population qui n'a pas accès à des toilettes à Port-Gentil au Gabon? Est-ce que vous avez une idée de ce chiffre-là?
Oui, on a une idée assez précise sur Port-Gentil, parce qu'on a mené une étude qu'on a appelée étude CADAF, et donc qui nous a permis d'avoir des données assez précises. C'est le taux d'accès à l'assainissement de la population de Port-Gentil.
Et alors
donc, il faut dire que Port Gentil est quand même bien aussi parce qu'on a 85% des gens qui ont quand même des dispositifs d'assainissement autonomes, donc soit des fosses septiques, soit de la latrines traditionnelles. Et on a quand même un 15% des gens qui n'ont rien chez eux, qui n'ont ni fosse septique, ni latrines chez eux.
Comment ça se passe dans les écoles? On a eu, nous, énormément de messages qui viennent d'ailleurs de l'ensemble de l'Afrique pour dire les toilettes chez nous, dans les écoles, sont vraiment totalement insalubres. Il y en a qui nous disent à la faculté, à l'université, c'est impossible de s'y rendre tellement c'est sale. Est-ce que vous avez une idée de l'état des toilettes dans les écoles?
Oh, oui, dans le cadre du projet que nous menons à Port-Gentil, donc on a fait quand même pas mal de visites et pas mal d'entretiens avec les responsables d'établissements scolaires, donc des lycées et des collèges. Et c'est vrai que la plupart des toilettes dans ces établissements sont dans un état délabrement assez avancé parce qu'il y a de l'inconfort et donc elles sont pas bien entretenues. Et il faut dire aussi que mais la particularité de Port-Gentil, c'est que c'est une presqu'île. On a de l'eau, la nappe phréatique qui monte de 50 cm du sol. Et dans certains établissements, ils font des latrines de type VIP, c'est-à-dire qu'ils creusent à 1 mètre ou voire plus du sol. Et ils utilisent donc des dalles de couverture. Donc quand on creuse dans le sol, donc on a l'eau de la nappe phréatique qui remonte. Et donc concrètement, les gens défèquent dans l'eau. Et donc, lorsqu'on rentre dans ces toilettes, il y a des remontées d'eau, il y a des odeurs, il y a des, d'autres.
Et puis des maladies qui peuvent se transmettre comme ça. Et justement, à Port-Gentil, les eaux usées sont-elles traitées et dans quoi sont-elles rejetées?
Pour l'instant, il n'y a aucun dispositif de traitement des eaux usées. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de réseau d'égout à Port-Gentil. Donc, on est sur l'assainissement autonome, pour ces petites et latrines traditionnelles. Et pour les fosses septiques et les latrines qui sont vidangeables quand elles sont pleines, les propriétaires font appel à des vidangeurs, donc qui viennent, qui aspirent le contenu des fosses septiques ou des latrines vidangeables, qui vont hors de la ville, à quelques 2 kilomètres de la ville, et qui les déportent sur un site, pour l'instant qui est toléré, mais qui ne traite pas ces eaux. D'où, on va dire, le projet qu'on a à Port-Gentil, parce qu'on prévoit de construire une station de traitement de ces boues-là.
Alors justement, qu'est-ce que vous faites avec Toilettes du Monde pour améliorer cette situation?
Oui, bon, il faut dire que Toilettes du Monde, c'est déjà un bureau d'études associatif, donc on fait la promotion des techniques de traitement écologique. Et nous, ce qu'on prévoit donc sur la ville de Port-Gentil, on a été sollicité par l'État gabonais. Donc, il faut dire aussi que c'est le plus grand projet dans ce secteur d'assainissement. Donc, pour construire une station de traitement de boues de vidange. Donc, pour éviter ou réduire les risques sanitaires et environnementaux qui sont causés par le déportage sauvage de ces boues. Et dans les quartiers, on prévoit donc de construire 1000 dispositifs d'assainissement autonome, donc des toilettes sèches, qui sont des toilettes écologiques, et en remplacement des latrines traditionnelles, parce que à Port-Gentil, dans certains quartiers qu'on appelle des quartiers sous-intégrés, c'est des quartiers qui sont souvent inondés, parce qu'il faut rappeler, il pleut 9 mois sur 12 à Port-Gentil et au Gabon. Et donc, dans certains quartiers, les gens ont les pieds dans l'eau. Et donc, comme les contenus de fosses ne sont pas étanches, donc souvent, il y a des interactions entre le contenu de ces fosses et l'eau de la nappe phréatique, d'une part, et ce contenu aussi remonte dans l'eau de surface. Et comme il y a des enfants qui jouent assez souvent dans ces eaux-là, parce que pour sortir de ces eaux et aller à l'école, ou les parents qui vont au travail aussi, donc on patauge dans ces eaux. Et donc il y a la transmission des maladies hydriques qui est assez importante à Port-Gentil. Donc nous, ce qu'on propose...
Oui, allez-y.
Oui, madame.
Oui, qu'est-ce que vous proposez?
On propose donc de remplacer ces toilettes traditionnelles, qu'on appelle des latrines traditionnelles, par des toilettes éco-sanes. Qui sont des toilettes sèches et construites hors sol parce qu'on n'a pas, on creuse pas dans le sol et on a 2 compartiments. Donc le but c'est de confiner les matières fécales et on sait bien que les matières fécales, je pense que le docteur pourra le confirmer, sont très chargées en germes pathogènes. Et donc confiner ces matières dans des cuves assez étanches permet donc de limiter le contact entre les matières fécales et l'eau de la nappe phréatique et l'eau de surface. Et donc du coup on va briser la barrière de transmission entre les gens pathogènes contenus dans les matières fécales et l'homme.
Et donc, ça peut éviter la propagation des maladies infectieuses. Merci beaucoup, Bardia Tchambano. Je rappelle que vous êtes ingénieur urbaniste, coordinateur des eaux usées de la ville de Port-Gentil au Gabon, et vous faites partie de l'association Toilettes du Monde.
Priorité Santé sur RFI.
Et aujourd'hui, dans Priorité Santé sur RFI, nous parlons des pathologies des toilettes avec le professeur Gérard Amarinco. Juste une réaction par rapport à ces questions d'hygiène. On a parlé de maladies infectieuses qui se propagent par les toilettes, dont le choléra, justement.
Oui, absolument. Je crois qu'il faut saluer ce type de travail, d'entreprise, parce que c'est le début de la prévention de toute pathologie, notamment infectieuse, et notamment le choléra, mais aussi d'autres germes. Donc c'est absolument capital. La prévention est, comme toujours en médecine, le meilleur moyen d'éviter les maladies.
Voilà. Depuis le début de l'émission, vous nous expliquez bien le lien qu'il y a entre cette hygiène dans les toilettes et les pathologies qui peuvent en découler, que ce soit des infections urinaire, vous l'avez dit, des problèmes de constipation. Est-ce que ce message, il arrive à passer au niveau des autorités pour que justement les choses changent dans les écoles et dans des endroits comme ça où finalement vous êtes assez peu entendu? Moi, j'ai l'impression qu'on ne vous entend pas beaucoup sur cette question-là.
J'avais du mal à
vous faire entendre.
Oui, enfin, ça c'est comme souvent les médecins, mais c'est... Non, le message passe, la meilleure des preuves, c'est que des réglementations existent et des réglementations bien faites. Le problème, c'est comme souvent dans beaucoup de pays occidentaux, c'est la mise en application des réglementations. Et la mise en application procède du bon vouloir des services publics, mais aussi d'un certain nombre d'actions et de possibilités financières. Il y a des priorités. Donc, les réglementations existent, il suffit de faire appliquer.
Est-ce que vous pouvez terminer en nous donnant quelques conseils, professeur Amarinco, quand on va aux toilettes? On va être très pratique. La position semi-accroupie, par exemple, essayant pas de s'asseoir sur les toilettes en se disant c'est sale, est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée?
Très mauvaise idée, ce qu'on appelle le squatting, dans un mauvais
anglais.
Ouais. C'est très très mauvais, puisqu'encore une fois, c'est pas une position physiologique. La position physiologique doit respecter un certain nombre de courbures et d'angles au niveau de l'anus, du rectum, etc. Et donc, la position la plus adéquate, c'est être assis confortablement. Pour les filles, les jambes écartées, non pas avec la culotte remontée au-dessus des genoux pour éviter que quelqu'un regarde encore une fois
par-dessus la porte.
Par-dessous la porte. Et puis les pieds surélevés avec un petit tabouret ou un petit bottin de 20 ou 30 ou 40 centimètres de hauteur, ça permet encore une fois de respecter la physiologie et l'évacuation des selles.
Par exemple, les toilettes qui sont un peu hautes pour les personnes âgées, c'est en fait une très mauvaise idée.
C'est pas forcément une bonne idée s'il n'y a pas simultanément un système pour relever de fléchir tant soit peu les membres inférieurs.
Oui, Catherine Solano. J'allais dire, j'ai jamais vu pour l'instant de petit tabouret ou de bottin dans les toilettes pour se relever ça. Donc je vais en mettre chez moi dès aujourd'hui.
Conseil, vous allez sur Internet et vous allez voir toute une série de postures adaptées pour les toilettes et notamment par exemple chez les personnes âgées, chez les personnes neurologiques ou même chez les patientes, les jeunes femmes qui ont des soucis d'exonération. C'est quelque chose par lequel il faut commencer avant d'infliger.
Vous avez un site internet à nous citer pour qu'on le mette sur le nom?
Non, vous savez, le site internet en matière de troubles sexuels, de troubles urinaires, troubles anorectaux,
il y en a plein. Donc, après ça, on sait qu'il y a aussi des petites filles et même d'autres personnes qui se mettent carrément accroupies, qui montent debout sur les toilettes et qui se mettent accroupies. Est-ce que ça aussi, c'est une bonne idée?
C'est une mauvaise idée à la fois pour éviter les microbes qui vont quand même pas sauter au niveau de la sphère périnéale et puis surtout, c'est une très mauvaise idée en termes de risque de chute, puisqu'on a bien montré dans des rapports qui avaient été remis au ministère, qu'il y a un certain nombre de traumatismes dans les écoles qui sont dus justement à la glissade de ces jeunes filles, de ces petites filles qui veulent encore une fois éviter toute problématique infectieuse et qui tombent à cause de ça. Non, c'est très mauvais.
Docteur Solano, vous avez une autre question à poser au professeur
Amarinco. Et les toilettes turques, alors, qu'est-ce que vous en pensez?
Quand on est dans cette position, à la limite, c'est presque bien pour faciliter l'exonération. Donc c'est une bonne solution. C'est une bonne solution.
Ouais. Alors, chez la fille. Juste, on continue sur les bons conseils pratiques. Donc vous nous avez dit qu'il fallait s'asseoir sur la cuvette, on a compris. Mais quand même, quand la cuvette n'est pas très propre, qu'est-ce qu'on fait? On la nettoie avant? C'est ça que vous conseillez? C'est pas très pratique quand même, non?
Oui, enfin là, vous savez, je ne suis que médecin, je ne suis pas ergonome et je n'ai pas les...
Ah oui, mais nous, on veut des conseils pratiques.
Ah oui, les conseils pratiques, eh ben, c'est avoir une bonne carte d'électeur et de...
Et se battre pour avoir des toilettes propres.
Et de se battre d'avoir des toilettes propres. Non, là, je n'ai pas de, recommandation particulière.
D'accord. Et on va retrouver, si vous voulez bien, le docteur Catherine Solano. Catherine, vous vous êtes intéressée à notre hygiène intime pour la santé sexuelle et le couple. L'hygiène, c'est aussi très important. Et vous allez nous expliquer pourquoi, Catherine.
Oui, avoir une bonne hygiène intime, c'est important pour les femmes parce qu'elles vont avoir moins souvent des infections vaginales ou des mycoses si elles ont une bonne hygiène intime. Et pour la sexualité, ça compte parce que quand on a des infections vaginales, ben les relations sexuelles font mal. Donc les femmes ont tendance à éviter les rapports sexuels et souvent pas seulement pendant l'infection, mais parfois des semaines ou des mois ou des années après parce qu'elles continuent à avoir peur d'avoir mal.
Et alors comment avoir une bonne hygiène intime pour les femmes d'abord, on verra pour les hommes après.
Alors pour avoir une bonne hygiène intime, il faut une toilette quotidienne au niveau de la vulve. Et ce qui est important, c'est que cette toilette doit être externe. Alors on peut la faire seulement à l'eau, tout simplement parce que ça suffit pour dissoudre toutes les sécrétions vaginales, ou avec un produit lavant très doux. Et ce qu'il faut surtout pas faire, c'est utiliser un produit désinfectant pour nettoyer cette zone, parce que les désinfectants, ça tue les microbes et ça tue aussi la flore vaginale.
Alors c'est quoi cette flore vaginale ?
La flore vaginale, c'est un ensemble de microbes qui sont des amis, en fait. Ils sont dans le vagin et au niveau de la vulve pour défendre son entrée contre les microbes qui sont des ennemis. Et donc, le problème, c'est que les produits désinfectants vont tuer ces microbes qui sont des amis. Et du coup, l'entrée du vagin va être sans défense. Et du coup, si on utilise des désinfectants, eh bien, contrairement à ce qu'on croit, on a beaucoup plus d'infections.
Alors, vous disiez aussi que la toilette doit être seulement externe. Qu'est-ce que ça signifie, concrètement?
Eh bien, ça signifie que l'intérieur du vagin ne doit jamais être nettoyé. Tout simplement parce qu'il est auto-nettoyant. Et quand on le lave, on augmente les risques d'infection, tout simplement parce qu'au niveau de la peau et de la vulve, il y a des microbes au niveau du périnée. Et donc, on va avoir tendance à faire rentrer les microbes dans le vagin. Et du coup, quand on pratique une toilette, on croit se nettoyer, mais au contraire, on se met des microbes et on a plus d'infections vaginales.
Et la toilette pour les hommes?
Alors, pour les hommes non circoncis, ce qui est important, c'est de bien décaloter le gland au niveau de la toilette. Et là aussi, on peut utiliser un produit nettoyant, mais même à l'eau, l'eau suffit pour dissoudre les sécrétions.
Est-ce que vous avez d'autres conseils importants à nous donner ?
Oui, alors pour les femmes, des conseils importants, c'est que quand une femme va aux toilettes, elle doit toujours s'essuyer de l'avant vers l'arrière. C'est-à-dire que elle peut, c'est pas gênant si elle amène de l'urine au niveau du vagin ou de l'anus, parce que l'urine, c'est stérile, donc il n'y a pas de risque. En revanche, si jamais elle apporte des petites particules de sel, si elle s'essuie de l'arrière vers l'avant, elle apporte des petites particules de sel vers le vagin ou l'urètre, ben elle risque d'avoir des infections urinaires ou vaginales. C'est pareil pour la toilette intime, faut se laver de l'avant vers l'arrière. Et puis dans la sexualité, ce qui est important, c'est pour les personnes qui pratiquent la pénétration anale, il ne faut jamais faire de pénétration vaginale juste après, sinon la femme va avoir une infection vaginale systématiquement.
Et vous avez aussi quelques conseils à donner sur les moments juste après une relation sexuelle.
Oui, ce qui est bien après une relation sexuelle pour les femmes, c'est d'aller uriner tout de suite après. Parce que pendant un rapport sexuel, on peut amener des microbes auprès de l'urètre et le fait d'aller uriner après, ça nettoie l'entrée de l'urètre. On dit que ça a un effet chasse d'eau et ça diminue beaucoup les risques d'infection urinaire. Et pour le partenaire, pour l'homme, c'est pas mal s'il peut aller se laver après un rapport sexuel à l'eau, parce que ça va en se décalotant bien, tout simplement parce que ça diminue les risques de mycose. Et surtout, après un rapport sexuel, il ne faut pas faire de toilette vaginale interne pour les femmes.
Et pour l'hygiène intime, quelle protection choisir pendant les règles ?
Alors, avant de parler des règles, je voulais parler d'un problème qu'on a, c'est les protège-slip. Il faut jamais utiliser de protège-slip tous les jours parce que ça assèche la muqueuse au niveau de la vulve et ça donne des irritations et ça augmente les infections. Il vaut mieux changer de petite culotte plus souvent. Et autrement, pendant les règles, on sait que les tampons, chez les femmes qui sont fragiles, qui sont sujettes aux infections, il vaut mieux choisir les serviettes que les tampons parce que c'est moins irritant et les changer souvent.
Et un dernier conseil, vous avez à nous donner, Catherine?
Alors le conseil, c'est là, je parle d'hygiène intime et on peut croire que je vais dire il faut absolument se laver, mais le conseil, c'est plutôt le contraire, c'est que les médecins voient beaucoup plus de femmes qui se lavent beaucoup trop, qui font une hyper toilette, qui s'irritent la vulve et l'intérieur du vagin, alors qu'il faut pas se laver trop souvent non plus. Et il faut accepter que la vulve, c'est un endroit qui est humide et cette humidité est super importante et qu'il y a une odeur particulière. Et d'ailleurs, si on se lave trop souvent, c'est dommage parce qu'on enlève aussi les phéromones qui sont des substances très importantes dans l'attraction sexuelle et dans l'équilibre de la sexualité. Donc, Pour les hommes, c'est pareil, mais par contre, on voit pas très souvent des hommes qui se lavent trop. C'est beaucoup, c'est pas tout à fait pareil.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, le professeur
Marico? La dernière phrase probablement pas, mais en revanche, tout ce qui a été dit avant, certainement, en rajoutant peut-être aussi pour les infections urinaires récurrentes chez la femme ou chez la fillette, sur la nécessité de proscrire les gants de toilette, qui c'est un véritable réservoir de germes, de proscrire les savons en pain et de privilégier dans ce cas-là les savons liquides, qui pour le coup permet d'éviter les infections urinaires. Chez la femme ménopausée, de consulter son généraliste ou son gynécologue pour avoir un traitement hormonal, puisqu'on sait que la bonne imprégnation œstrogénique locale permet de diminuer les infections urinaires.
Alors le gant de toilette, c'est une mauvaise idée.
Très
bien à retenir. Le pain de savon, c'est-à-dire le savon...
Le savon classique. Chez les femmes qui ont des infections urinaires à répétition, un des premiers conseils, c'est de leur dire d'arrêter le savon en pain qui peut... même
Parce que
si
les microbes vont rester dessus,
oui,
en fait, c'est ça.
Absolument.
Et c'est comme ça que ça se...
Et on privilégie dans ce cas-là le savon liquide.
Et ça, c'est les conseils que viennent nous donner Catherine Solano, c'est des conseils que vous êtes amenée de temps en temps à donner justement
tout le temps. C'est exactement les mêmes conseils que l'on donne aussi bien dans la pathologie fonctionnelle que chez la pathologie neurologie, y compris le port de culottes en coton plutôt qu'en nylon, d'éviter le port de vêtements serrés pour toutes les raisons qu'a donné Catherine.
Un mot de conclusion, professeur Amarinko, on arrive à la fin de cette émission sur les pathologies des toilettes. J'imagine que vous allez nous dire ne pas hésiter à consulter quand il y a un problème.
Oui, je crois qu'il faut d'abord prendre tout symptôme, constipation, incontinence urinaire ou difficulté à uriner comme un symptôme et donc consulter son médecin et ne pas considérer que c'est quelque chose de banal.
Merci beaucoup professeur Amarinko. Je rappelle que vous avez publié Pathologie des toilettes, c'est un livre qui paraît aux éditions Springer. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce sujet délicat, mais vous voyez, on a réussi à en parler pendant une heure et je pense que ça intéresse beaucoup d'auditeurs à voir les réactions qu'on a en ce moment sur Facebook. Vous pouvez aussi nous faire part de vos questions, soit par email à priorité.sante@rfi.fr, soit par téléphone au 33 1 84 22 75 75, 33 1 84 22 75 75, toujours Facebook pour nous laisser des messages. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé, Didier Bleu, Guillaume Munier, c'est tout ça maqué et à demain.